Bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, retour sur le MMA avec une combattante française que j'aurais voulu avoir plus tôt, mais pour des soucis d'agenda, puisque Alex travaille énormément. J'ai pas eu l'occasion de la voir, mais après son combat et sa dernière victoire sur la dernière carte de Arès le 17 novembre face à Yoni, Alex a signé une belle victoire. Mesdames et messieurs, Alex Tekena. Alex, comment vas-tu?
Hello l'équipe, bah, ça va très très bien. J'ai déjà repris l'entraînement. Donc, je me porte bien. J'ai pas eu de dommages après le combat. Donc, c'est plutôt cool de repartir sur une nouvelle prépa. Je sais pas pour quel adversaire, mais de toute façon, on est tout le temps à la salle.
Ce qui s'est passé, c'est que tu as eu aussi deux victoires back-to-back. Ça te positionne bien, surtout que tu as bien performé face à Yoni. Évidemment, on reviendra un petit peu plus dans le combat par la suite. Mais première question, c'est où est-ce que tu penses que tu te situes après ces deux victoires back-to-back? Tu as eu une période de creux et puis là, tu es plus active. Et puis j'ai vu sur tes réseaux que tu veux déjà un peu replonger dedans. Et puis comme tu nous dis, tu es déjà à la salle. Par rapport au roster, je te verrais bien placé pour au moins une discussion pour une ceinture. Qu'est-ce que toi, t'en penses de ton point de vue?
C'est vrai que dans la KT, bon, il n'y a pas beaucoup de 57. La ceinture est vacante et je suis la seule qui a deux victoires d'affilée. Enfin, les filles qui restent en 57 sont sur des défaites, il me semble. Après, je sais pas qui je pourrais prendre pour cette ceinture, mais quoi qu'il se passe, en fait, que ce soit une ceinture ou pas, tant que je peux combattre en mars. Sur la carte apparemment qu'il y aura en mars, j'aimerais dire que je me porte bien.
Oui, bah, justement, je vais rebondir là-dessus sur l'activité 2023. Sans vouloir te rappeler de mauvais souvenirs, ça a un peu été l'année de la poisse pour Alex Tekena.
Ouais.
Des annulations d'adversaires, il t'a fallu beaucoup de patience. Tu as eu 10 mois d'intervalle entre ton quatrième et ton cinquième combat pro avant de finalement
Exact.
avoir ce dernier, avant d'avoir ce deuxième combat, pardon, en 2023. Comment on reste dans un bon esprit? Comment on reste concentré? Comment on reste motivé? Après toutes ces galères qui te sont arrivées en 2023, comment t'as su rester concentré et motivé?
Bah, c'est vrai que c'était pas évident parce que je devais combattre en juin. Je devais combattre en juin et ça a été annulé une semaine avant. Une semaine avant, on a essayé de trouver des remplacements, mais bon, ça s'est pas fait. Après, le doute restait sur quand j'allais recombattre. On tabulait sur septembre, la carte de septembre a été annulée. Puis, octobre, et pas de carte en octobre, et on s'est retrouvé à novembre. Donc, en fait, là, ce qui est pas mal entre guillemets, c'est que moi, alors, je m'entraîne parce que j'aime bien m'entraîner, j'aime bien être à la salle, progresser. Mais c'est vrai que ça fait des petits ascenseurs émotionnels, surtout quand ton combat est annulé et que tu es au poids, tu es au poids, tu es prête. Tu as mis de côté certaines choses pour être prête en juin. Les vacances ont été chamboulées parce qu'on ne savait pas quand combattre ou peut-être combattre à l'étranger l'été. Ça, c'était une option aussi. Mais de toute façon, on savait que quoi qu'il allait se passer, bah, on allait finir par combattre. On ne croit pas au ring rust. Tout ce qu'on voulait, bah, c'était enfin y aller. Et c'est vrai que lorsqu'on y était enfin, lorsqu'on était la veille, je me suis dit, OK, on est bon, la pesée est faite, tout est lourd, tout est bon. Bah, on était plutôt contents, quoi. Mais bon, c'est vrai que ça fait un petit ascenseur émotionnel. Moi, j'ai volonté à être active là sur cette année 2024. J'aimerais bien combattre tous les 3-4 mois. Si la santé le permet, aussi si la gestion du poids le permet. Donc, c'est ça l'objectif.
Je voudrais revenir un petit peu en arrière sur ta carrière. À l'époque de ton combat contre Ivana pour la ceinture, tu étais propulsé pour un combat pour une ceinture, à peine deux combats pro dans ta carrière, dans ton sac. Te voilà déjà pour un combat pour la ceinture face à la future championne et aujourd'hui combattante de l'UFC. c'était bien parti justement pour gagner ce combat avant que bon bah ça passe dans l'autre sens. Mais bon, ça c'est la dure loi du sport et du MMA. En tant que jeune combattante, hein, puisque je te disais t'avais seulement deux combats pro, te voilà déjà pour la ceinture. Comment t'as vécu cette défaite en tant que jeune pro?
Toutes les défaites sont vécues comme un coup de poignard dans le cœur, quoi qu'il se passe. Et aussi, il y avait cette pression, il y a la pression et la dictature du chiffre en MMA pro. Donc, je me suis dit, OK, 2-1, ça fait moche. Parce que 2-1, ça peut vite virer en 2-2, là, c'est très moche. Et 2-3, c'est encore plus moche. Donc, je me suis dit, OK, il n'y a pas le droit à l'erreur sur les prochains combats. Cette défaite, c'est pas tant une remise en question ou autre, parce que ce soit une victoire ou une défaite, à chaque fois, on doit remettre les compteurs à zéro et se remettre en question dans tous les secteurs en termes de performance. Le fait que j'ai cette expérience dans le wushu, le kickboxing, le K1 avant, même si c'était qu'en amateur, a fait que les victoires et les défaites, je sais les gérer. Sauf qu'avant, j'avais pas cette dictature du chiffre et cette pression-là. Donc, on va dire c'était un nid de poule dans mon avancée. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne le souhaite pas, mais en tout cas, de toute façon, quoi qu'il se passe, il y a travail à faire à la salle dans toutes les aires et voilà, quand on continue. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois, on me dit, tu étais en train de gagner jusqu'à ce que tu aies perdu. C'est le sport de combat, ça aurait pu être aussi une stratégie de sa part. Donc, tout ce qui compte, c'est la victoire ou la défaite à la fin et j'ai perdu. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est une défaite que j'ai acceptée. Qui a créé une remise en question, mais mes victoires me remettent plus en question que mes défaites. Parce que lorsqu'on fait une victoire, c'est plus dur de se remettre en question, donc on doit être plus observateur. Alors qu'une défaite, forcément, la cause de la défaite, ça va être l'objectif numéro 1 à corriger et à ajuster par la suite.
En parlant d'Ivana et d'autres combattantes, Melissa Dixon, Daria ont aussi changé d'employeur qui est le tien en ce moment, Ares, pour partir au UFC, voir certaines de tes collègues partir dans d'autres organisations. Est-ce que c'est une source de motivation pour toi de dire bon ben Ares c'est quand même c'est une belle organisation en France déjà et même en Europe j'ai envie de dire et ça peut être un beau tremplin pour la suite d'une carrière. Est-ce que pour toi c'est motivant de voir ces gens partir dans d'autres organisations?
Bien sûr, parce que on va dire que je suis le même parcours qu'elle, sachant que Mélissa et Daria n'ont pas eu la ceinture, mais elles ont un parcours plus long, on va dire. Dans leur carrière pro, elles ont plus de combats que moi. Mais petit à petit, je me rapproche du nombre de combats qu'elles ont et j'espère du nombre de victoires qu'elles ont. Pareil pour Ivana, donc Ivana qui a fait une défense et puis après qui est partie à l'UFC. Donc c'est forcément ça inspire parce qu'on se dit qu'on n'est pas si loin que ça, sachant que chez les femmes, en fait, ça va très vite parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Il y a beaucoup moins de concurrence. Par exemple, après ce combat, je suis classée sur Fightmatrix 88e. Alors que chez les hommes, non, au bout de 5 combats à 4-1, on n'est pas directement classée 88e mondiale. Donc c'est beaucoup plus simple. Ares, en plus, c'est sur l'UFC Fight Pass. C'est une très belle production. C'est une production qui est associée à l'UFC aussi. Et c'est une plateforme intéressante. Et puis, mine de rien, on a des bonnes oppositions qui font de beaux spectacles au niveau de la cage. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que potentiellement les matchmakers de l'UFC recherchent. Pas des combattants ou des combattantes qui ont un style un peu ennuyeux. Je pense que j'ai un style qui plaît parce que c'est très violent. C'est très violent. J'aime bien rester
Oui.
debout, j'aime bien créer du dégât. Et ça se voit aussi que je m'amuse dans la cage lorsque je combats. Donc j'espère que ça sera une suite, mais je ne prétends pas à ce que ça soit une suite immédiate.
Une question par rapport à ton entourage. Il y en aura deux en fait. Tu es managé pardon, par Guillaume Pelletier et coaché par Johnny Vraché. Est-ce qu'on peut faire mieux comme combo pour un fighter MMA en France? Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que tu pourrais faire mieux?
C'est vrai, il y a JB aussi. En fait, c'est surtout JB qui s'occupe de moi au sein de la BTT, qui
Ok.
est très souvent dans mon coin, en fait. Qui est très souvent dans mon coin. Et Johnny, c'est vrai que, bah, en plus, vraiment, on s'entend vraiment super bien, on rigole bien. J'aime bien le taquiner d'ailleurs sur les combats. Je m'amuse à faire floquer sa tête un peu partout. T-shirt, Bob, son dernier fight. Là, je me demande ce que je vais faire sur la prochaine. Mais en termes de professionnalisme et d'entente, j'ai cette chance que ça matche bien. La BTT a de très bons rapports en plus avec beaucoup d'organisations. Donc c'est un bon contact à avoir. Ils ont de très bons rapports aussi avec leurs athlètes, c'est-à-dire qu'ils prennent soin de leurs athlètes. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas d'entourloupe. Ils sont honnêtes en plus aussi avec leurs sportifs sur les objectifs. Donc ça c'est déjà top. Et puis avec Johnny, bah c'est en forme un sacré binôme quoi. Puis aussi j'ai la chance d'avoir, il y a d'autres coachs au sein de l'IS Métro. Je m'entraîne encore aussi de temps à autre au NR Fight, surtout pour la lutte à livrer, le sol. Donc, on va dire que tout autour de moi, j'ai une équipe incroyable qui s'est formée d'elle-même. On va dire que c'est un concours de circonstances et je m'estime extrêmement chanceuse.
On va parler un petit peu de ton environnement encore, comme je te l'avais dit. Je t'avais dit que c'était pas facile de caler nos agendas sans te jeter sous le bus, surtout par rapport au tien. Mais ça, c'est pour une très bonne raison. C'est parce que tu es quelqu'un qui travaille très, très fort. Tu travailles à côté de ton occupation de fighter pro. Tu t'entraînes 2 fois par jour, des fois, souvent. Tu coaches le soir aussi. Comment est-ce que tu trouves du temps pour toi? Comment est-ce que tu fais pas un burn-out? Est-ce que tu as une vie sociale? Est-ce que tu vois tes amis? Est-ce que tu as... Enfin, je ne vais pas rentrer dans ta vie privée non plus, mais est-ce que tu trouves le temps de passer du temps avec tes proches et de passer du temps pour toi surtout? Comment tu tiens mentalement face à toute cette charge de travail?
Il faut savoir, le dernier combat, j'ai failli faire un burn-out. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après les combats, on met tout de. Bah, tu vois, nous, on s'est vus après ce combat. Mais en fait, tout ce qu'on a mis de côté avant le combat, on a un retour de bâton terrible juste après. Si on a... C'est pour ça que maintenant, je reviens petit à petit, entraînement, travail. Mais j'ai réussi à. Surtout là, ces 2 derniers mois, à créer un environnement où j'ai du temps pour me reposer. C'est vrai que je travaille pas mal, enfin pas mal. Mon emploi du temps est bien calé autour de mes entraînements, mais je bouge beaucoup parce que je coach parfois sur plusieurs structures. Mais j'ai toujours aussi le temps de caler ma sieste, et je prends du temps pour voir mes proches aussi. C'est-à-dire que, bah, j'ai réussi à avoir, c'est très rare, 2 jours off. Complet. Enfin, un jour off de tout et un jour off du travail, mais du coup, je m'entraîne 2 fois dans la journée. Mais petit à petit, j'ai réussi à me finir moins tard, à commencer aussi un peu plus tard le matin, à pas travailler le matin avant de m'entraîner pour aller tout de suite sur l'entraînement et avoir l'esprit libre, avoir du temps pour voir mes proches. Mais après, c'est vrai que on va dire que la priorité sur mon temps libre, c'est de me reposer. Dans le sens où aussi du temps libre, c'est pas forcément du temps pour les autres pour faire quelque chose, c'est du temps pour soi et pour s'occuper de soi. Mais c'est la problématique numéro un, je pense, chez les combattants, surtout à notre échelle, dans le sens où je pense que à 80%, 70% des combattants travaillent à côté. Parce qu'il faut bien payer les factures, par exemple, bah, si je Bah déjà, les primes de combat actuellement, elles ne me permettraient pas de vivre que du combat. Et puis, par exemple, bah, cet été, mon combat était annulé. Donc, pas de combat, pas de paye. Pas de paye, bah, c'est important aussi d'avoir l'esprit tranquille et de savoir que les factures sont payées. Et aussi, bah, mine de rien, je pense que je garderai toujours une petite base avec le fait de coacher, donner des cours, parce que bah, déjà, c'est une de mes passions, le fait de partager la mienne, justement. Donc, et aussi, je combats parce que j'aime ça et je veux pas que ça soit une obligation. Bien sûr, il y aura des ajustements où le temps sera largement coupé de travail afin de plus récupérer, pas forcément de plus s'entraîner, surtout de plus récupérer et de prendre plus de temps pour soi. Mais voilà, j'aurai toujours cette petite base dans le cadre du travail.
On va repasser un petit peu dans la cage. On va parler un peu lutte. J'ai pris le soin de, évidemment, re-regarder ton dernier combat chez Arès. Je suis obligé un peu de faire le parallèle avec d'autres combats comme avec Ivana, etc. Contre Yoni, récemment, tu t'es fait mettre au sol une paire de fois. Et même si je vois que tu es à l'aise sur ton dos, de toute façon, et que tu n'es pas forcément en danger, peut-être il y a un petit peu le côté skill de la combattante en face qui est un peu manquant. Mais est-ce que tu trouverais ça juste de ma part de dire que pour peut-être passer l'étape de la combattante, vraiment la trempe de championne, la dominante, ce serait un aspect de ta game qui serait à améliorer?
Dans le cadre de mes entraînements, on va dire qu'il y a un gros focus sur la lutte, sur le sol défensif. Mais suite au combat, en fait, le planning, il va pas changer parce que le travail va continuer, sauf que je travaillerai un peu plus là, ma lutte offensive et mon sol offensif. En fait, c'est vrai qu'au niveau du dernier combat, j'ai fini pas mal de fois au sol, deux fois. Après, avec Joe et surtout au niveau de mon jeu, on travaille beaucoup sur ce petit espace-temps où on se fait amener au sol et tout de suite on se relève. Donc je pense que c'est ça qui a beaucoup été vu au niveau du combat. Et lorsque j'étais au sol, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros moments de panique. Mais ça aurait pu me poser problème avec quelqu'un qui avait un jeu vraiment très agressif au niveau du sol. Après, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, le fait de se relever. De se relever, de ne pas accepter le sol. Mais c'est vrai que surtout sur la dernière, et aussi sur la deuxième, j'ai beaucoup bloqué. Parce que je me suis dit, bah, au bout d'un moment, ça va relever. Et on joue un peu avec les nouvelles règles du MMA, où si on est arrivé au sol et que aucun dommage ne se fait, en fait, ça marque rien. Ça marque pas de points. Oui, après, je travaille toujours sur la lutte. Et là, curieusement, ce que je dois travailler en priorité par rapport au dernier combat, c'est le fait que je l'ai pas cadré. Pour moi, ça a été ce qui a été le plus gros manquement. Si on regarde au niveau du combat, j'ai regardé récemment et je la cadre pas et je me fais balader en fait au niveau du combat. Là, de toute façon, la lutte, le sol, c'est ma priorité. En général, ce qui est drôle, c'est que sur mes prépas, je travaille très très peu le striking. Je travaille surtout le striking et les défenses de lutte et le fait de se relever. Après, c'est vrai que parfois, j'aimerais bien, sur certains combats, montrer mon sol offensif. Parce que j'ai un sol qui est très, très, très agressif au-dessus. Très, très, très agressif au-dessus. Mais bon, quand on combat, on cherche à gagner. Et je sais que la clé pour que je gagne, c'est que, en général, que je reste debout. Mais c'est vrai qu'il y a eu trop d'amener au sol. Et les deux fois où je suis resté longtemps sur le dos, c'est des phases où, à un stade avancé, je veux dire, en termes de progrès technique, en fait, il faudrait que je me relève dans les 30 secondes.
Sachant que tu veuilles te battre plus régulièrement, est-ce que tu as des touches? Tu m'as parlé de Mars. À part vouloir te battre sur cette carte, est-ce que tu as d'autres choses?
Aucune. 0-0. Le lendemain après le combat, on en a parlé avec JB, on attend les dates, et même pour mars, il n'y a pas de date concrète, il n'y a pas je crois que c'est l'Adidas Arena, mais il n'y a pas de date concrète, il n'y a rien, donc pour le moment, en fait, on peut pas se projeter sur quelque chose qui est inconnu. Moi, je continue de m'entraîner, je sais que vers cette période-là, février, je recommencerai à. De toute façon, je pense que février devrait avoir une date d'annoncer pour mars. On va dire qu'on garde cette date en tête, mais on va dire qu'on marche dans la pénombre là pour le moment.
Ok, je
Donc il n'y a
comprends.
plus qu'à aller à l'entraînement, à progresser, surtout à prendre du plaisir, parce que dès lors qu'on a un nom ou une date, il y a un mini enjeu au sein des entraînements. Donc on a une pression supplémentaire, même si en général on se dit que non, mais non, il y a toujours cette petite forme de pression. Donc là, on s'amuse surtout, on s'amuse, on travaille. Sur des choses avec lesquelles on est moins à l'aise et on continue de développer son jeu en attendant.
Je souhaite que tu te trouves une combattante au plus vite. Et as-tu quelque chose à ajouter? Je sais que tu as été très vocal sur des sujets qui te concernent récemment. Si tu veux en parler aussi aujourd'hui, tu peux y aller.
Oui, c'est vrai que j'en ai parlé parce que bah, c'est rare qu'on ait l'opportunité de s'exprimer. En plus, j'étais prise au dépourvu parce que je n'avais rien prévu de dire de particulier au niveau du micro. Mais j'en parlais avec Joe lorsqu'on faisait le cutting. Que ouais, c'est surtout en fait ça réduit les performances aussi au sein du combat parce que il y a la partie régime, il y a la partie cutting. Donc du coup moi je fais par exemple je fais pas de régime cétogène parce que bah c'est très compliqué de gérer ça au niveau de mon taux de sucre donc je parle du diabète parce que je suis diabétique insulino-dépendant. Donc du coup bah en général je suis plus légère que mes adversaires. Je suis pas un gros 57 parce que je peux pas enlever cette partie d'eau qui est associée au régime cétogène. Il faut savoir quand j'ai fait le bain par exemple du coup, à chaque fois Lucine mais en même temps j'avais fait une hypoglycémie donc je devais manger. Alors que des bonbons. Bon, après, ça pèse pas lourd, mais on est en train de perdre du poids, on est en train de perdre de l'eau, et je suis en train de manger mes pleins de bonbons en me disant, purée, j'espère que je n'ai pas un peu de rétention d'eau à cause de ça, et que ça me rajoute pas du poids à perdre ensuite. Ça fait des ascenseurs avec le taux de sucre lorsqu'on arrive avec le combat, parce qu'en fait, il y a le corps qui n'arrive pas à gérer, en fait, ce retour d'aliments qu'on consomme après le cutting, que la réhydratation, la réalimentation. Donc en fait, c'est une catastrophe au niveau du taux de sucre et au niveau du diabète post-pesé avant le combat, j'en parle même pas. Donc ce qui fait qu'en fait, ça nous déshydrate parce que notre taux de sucre est très élevé. Ça nous déshydrate lorsqu'on combat. Donc nos perfs, en fait, elles sont légèrement réduites par rapport aux autres personnes. Donc on a ça en plus à penser et à gérer. Donc c'est pas évident en tout cas pour le combat. Donc j'en ai parlé aussi parce que bah au final, je fais du sport à haut niveau. Et il y a certains athlètes, je crois qu'il y a une karatéka aussi qui est diabétique. Il y a d'autres athlètes aussi. Donc, bah, on a une plateforme, c'est cool de pouvoir communiquer là-dessus, surtout pour les jeunes et leur dire, bah, vous voyez, on peut faire du sport à haut niveau. On peut faire même du sport tout court, parce que certains n'osent pas faire du sport. Moi, j'ai eu la chance, j'allais quand j'étais plus jeune, ça s'appelle l'AJD, l'aide aux jeunes diabétiques. Ils organisaient des colos. Et une colo diabétique. Et donc, ce qui fait qu'on était avec plein d'autres personnes qui souffraient de la même maladie. Donc, ça normalisait la situation. On faisait du sport. Ça nous aidait à gérer aussi ça. Donc, je me suis dit, bah, j'ai l'occasion de communiquer là-dessus. Il faut savoir que moi aussi, je suis asthmatique. Comme quoi.
Double
Donc, voilà,
punition.
c'était double punition. Exact. Mais bon, bah, là, au final, ça m'a aidé. Dans le sens où bah, j'ai dû mettre 2 fois plus de travail pour avoir un bon cardio, même si c'est très dans. En fait, j'ai l'angoisse de tomber malade avant un combat. Et là, alors l'asthme, c'est là qu'il survient avec les bronchites, des soucis de respiration. Et enfin bref, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, les choses qu'on ne peut pas contrôler, il faut les accepter. Donc c'est pour ça que je tenais juste à adresser un petit message parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'en parle peu, j'en parle jamais. Mais bon, c'était le moment et maintenant que j'en ai parlé, voilà quoi, c'est fait.
La façon dont je voyais ton discours, c'était tout le contraire de, en gros, te montrer toi en difficulté, mais plus de montrer que les autres peuvent réussir par rapport à ce qu'ils ont. Donc, en gros, c'est pas de te donner des excuses, genre, ah, c'est dur pour moi, etc. Non, c'est genre, regardez, vous pouvez y arriver aussi si moi je le fais. Et je trouve ça très, très, très louable comme message plutôt que dire, ah ben moi je suis blessé, ah ben moi ci, ah ben moi ça. C'est genre, non, moi j'ai ça, j'y arrive, toi fais le pareil.
En fait, c'est bête, mais même, je pense, d'autres combattants ont d'autres soucis. Lorsqu'on rentre dans la cage, en fait, on a tous des soucis, que ce soit, je sais pas, la famille, le travail, la vie perso, maladie, blessure ou autre. Par contre, ben, en fait, tout ce qu'on peut pas contrôler, influencer, en fait, faut faire avec. Donc, il n'y a pas de fatalité. Tu adaptes, tu ajustes. Peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais potentiellement, peut-être que mon adversaire en face, elle a d'autres soucis à gérer. Donc, il faut jamais aussi mettre le fait de mal performer, potentiellement mettre ça sur le compte de quelque chose qui nous arrive. À partir du moment où on a signé le contrat, à partir du moment où en fait on met le pied dans la cage, bah, en fait, le reste n'a pas d'importance, quoi. Donc, c'est pour ça, c'est important aussi de ce que tu peux pas contrôler, tu fais avec. Tu te plains pas, tu te plaindras à un autre moment, tu as le droit de se plaindre. Mais lorsque tu dois faire quelque chose, focalise-toi là-dessus et puis voilà. T'as pas le choix de toute façon.
Bien, bravo Alex. Dernière mini-question. As-tu trouvé ta prochaine célébration pour ta prochaine victoire?
Ouais, j'ai trouvé ma prochaine célébration. La dernière
Évidemment,
fois,
je te
c'était
demande pas.
1000 ans de souffrance. Et là, j'ai trouvé ma prochaine célébration. J'ai demandé aux gens sur Twitter et c'est bon. J'ai eu un combo de deux célébrations. Donc, c'est validé. C'est tout bon. Il y en a
Excellent.
certaines, je pense, ça aurait été un peu rude. Ça m'aurait trop foutu la honte. À moi, à mon coach, la France, ma famille. Donc, on va s'en tenir à ce qui a été choisi et ça va être cool.
On a vraiment hâte de voir ça. Merci beaucoup pour ton temps, Alex, et puis pour ton
Merci, avec
message,
plaisir.
et pour ton message super important, et puis pour tes performances surtout. Et on a hâte de la suite. Merci, Alex. À très bientôt.
Merci beaucoup à
Bye.
toutes.
I'm not surprised, motherfuckers.